Alors, c'est ça, on est en train d'étudier le chapitre 24, les 28 premiers versets. C'est un livre, le chapitre 24 est particulièrement riche. La preuve, c'est que si vous iriez dans une bibliothèque de théologie, il y a plusieurs livres au complet, un livre au complet qui a été écrit juste sur le chapitre 24 de la Genèse. Alors, s'il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur le chapitre 24, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à l'intérieur du chapitre. Alors, pourquoi il est riche? Parce que souvent, lorsqu'on lit le texte, on voit uniquement l'histoire. Bon, Abraham qui demande à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils Isaac, et on ne fait pas nécessairement un parallèle avec l'œuvre de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit et de l'épouse. L'épouse, c'est qui dans le Nouveau Testament? C'est l'Église. Alors, c'est comme Dieu le Père qui envoie le Saint-Esprit pour aller chercher l'épouse qui est nous. Alors, quand on regarde le texte, on le lit, là, il y a vraiment l'histoire d'Abraham, le serviteur, qui va chercher une épouse pour son fils. Mais si on met ça, en la lisant, souvent, ça nous fait penser à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'œuvre de Dieu le Père qui envoie son fils et qui envoie le Saint-Esprit pour venir chercher l'épouse. Quand on met ça en parallèle, ça devient beaucoup plus riche et beaucoup plus plein de symboles. Alors, on peut regarder, si on regarde ça du point de vue symbolique, quand vous lisez les commentateurs, souvent ils vont voir dans la personne d'Abraham. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, il y avait un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi, c'est bien sûr, c'est le Père, Dieu le Père, qui fit des noces pour son fils. Alors, Abraham préfigure un roi, le roi, Dieu le Père. Le serviteur, on peut voir comme symbole là-dedans qu'il représente le Saint-Esprit, qui, selon les Écritures, ne parle pas de lui-même, mais emporte avec lui les dons de l'époux pour gagner l'épouse. Alors, il amène l'or, il veut la ramener. Et il faut se souvenir que Isaac, Dieu a fait une promesse à Abraham, que sa descendance, et il lui faisait la promesse que le Messie viendrait, et qu'il viendrait, mais par sa lignée. Parce qu'on se souvient que lui avait 100 ans, que sa femme avait 90 ans, et qu'elle n'était pas capable d'avoir d'enfant, et que Dieu lui avait dit que la lignée du Messie va arriver par ton fils. Et là, bien entendu, il y avait de la misère à croire qu'un homme de cet âge-là et une femme de cet âge-là puissent avoir un enfant. Pourtant, Dieu a fait le miracle. Il a eu l'enfant. Et là, Dieu est en train de nous montrer que la promesse qu'il a faite est en train de l'accomplir. Il va permettre que le serviteur aille chercher une femme. Et vous remarquerez qu'Abraham ne voulait pas que son fils Isaac est une femme du pays dans lequel il vivait, parce que c'était des païens. C'était des personnes qui n'étaient pas des croyants. Et il avait demandé à son serviteur, va dans mon pays et je veux que mon fils marie une croyante. Alors, on a toute l'histoire de Rebecca, comment ça s'est fait et comment. Alors, on voit comment Dieu se sert de toutes les choses qui sont dites dans le livre de la Genèse pour montrer que l'accomplissement. Faut pas oublier que la promesse que Dieu a faite à Abraham, ça a pris des milliers d'années avant que ça se réalise. Mais est-ce que à cause qu'il y avait des milliers d'années avant que ça se réalise, que ça s'est pas réalisé? Dieu nous montre, quand on lit l'Ancien Testament, on voit le déroulement de la promesse de Dieu. Dans le fond, c'est bien, c'est aussi simple que ça. Et là, on voit aujourd'hui un maillon de la chaîne qui va nous emmener jusqu'à ce que Jésus naisse et qu'il vienne accomplir ce que le Père lui avait demandé d'accomplir. Alors, le serviteur, bien sûr, ça parle de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui amène l'épouse à la rencontre de l'époux. Là, on pourrait aller voir une multitude de versets dans le Nouveau Testament qui pourraient être un parallèle avec cette histoire-là, mais l'histoire de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui vient chercher l'épouse. Dans les Écritures, l'Église, on dit de l'Église, donc nous, les croyants, on est l'épouse de Christ. Donc, il va venir nous chercher, comme le texte nous. Mais c'est plus tard un peu. Mais on voit comment Dieu réalise sa promesse là-dedans. Et Rebecca, là-dedans, représente, on pourrait dire, symbolise l'Église. Parce qu'elle est appelée une vierge fiancée. Parce que là-dedans, ça se dit qu'elle est très belle de figure et en plus, elle est vierge. Alors, on pourrait aller voir une multitude de versets dans le Nouveau Testament pour nous parler de toutes ces choses-là. Alors, bien sûr, Isaac, lui, il remplit le rôle de l'époux, parce qu'on sait que Rebecca, le serviteur, il va la ramener. Quand on lit le reste de l'histoire, dans le chapitre 24, là, il va la ramener. Et elle, même si elle ne connaissait pas son futur mari, sachant que ça vient de Dieu, elle l'accepte. Imaginez-vous se marier à l'aveuglette, là, c'est juste... Est-ce qu'on aurait assez de foi pour faire ça aujourd'hui? Si on sait que ça vient de Dieu, Dieu ne lui a pas fait marier quelqu'un qui n'était pas... Il l'a fait marier, donc premièrement, elle était belle, très belle, ça se dit. Elle était très belle de visage, et en plus, elle était vierge. Elle était croyante. Alors, quelque part, Dieu, quand il lui demande, Dieu l'a dirigé dans son voyage pour que ça soit une réussite. Parce qu'il avait fait mettre la main sur sa cuisse, il dit, amène-moi cette femme-là ou non, sinon la promesse que je t'ai faite faire, oublie-la. Alors quelque part, on voit la main de Dieu dans tout ça. Imaginez-vous dire, tu es à côté d'un puits, là, puis tu pries l'Éternel, puis tu dis, Seigneur, celle-là là, qui va aller chercher de l'eau, puis qui va m'offrir de boire, puis qu'après elle va dire, non seulement je vais te faire boire, mais je vais aller faire boire tes chameaux. Puis là, toi, tu l'as fait en prière, elle n'a rien entendu. Là. Puis elle arrive, puis il lui demande, elle lui donne de l'eau. Et non seulement elle lui donne de l'eau, mais elle accomplit ce qui s'est produit dans sa tête quand elle a prié. Alors, tu ne peux pas faire autrement que de voir la main de Dieu dans cette rencontre-là et dans le fait que... Alors, bien sûr, Isaac préfigure l'époux sortant à la rencontre de l'époux. Parce que si on étudierait le reste du chapitre 24, on verrait qu'à un moment donné... Le serviteur, il va prendre Rebecca, il va l'emmener vers Isaac, et Isaac va éventuellement la marier. Et là, ça va continuer la lignée messianique jusqu'à l'arrivée de Jésus. Alors, on va regarder le point aujourd'hui, les versets 1 à 9. Une épouse pour Isaac qui est désirée. Autrement dit, on voit l'idée que Abraham ne peut pas se résigner à l'idée que son fils marie une païenne, marie une femme qui ne croit pas. Alors, ça dit dans le verset 1, « Or, Abraham était vieux, avancé en âge. » Alors, probablement qu'il voyait que sa vie, elle avançait, et il avait besoin d'être certain que son fils ne marierait pas une inconvertie. Parce que ça dit, « L'Éternel avait béni Abraham » en toutes choses. Donc, à quelque part, avec le temps, Dieu avait permis qu'Abraham soit richement béni. Et alors, là, on voit qu'Abraham a pris de l'âge, il est expérimenté, il était abondamment béni de l'Éternel, mais il demeure quand même responsable et conscient de ses responsabilités face à son fils. Il sait que le Messie va passer par lui, mais il ne veut pas que son fils marie une inconvertie. Alors, quand on regarde, ça se fait d'une façon solennelle, et ça se fait aussi dans le verset 2 à 6, ça se fait de façon soigneuse, parce qu'il choisit, pas n'importe qui, pour aller chercher une femme pour son fils, il choisit son serviteur, et le plus ancien de sa maison, et ça dit, celui qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait. Autrement dit, il n'a pas pris un deux de pique. Il a pris celui qui était capable d'administrer tous ses biens, il était très riche. C'est comme s'il aurait pris son ministre des Finances, si vous voulez, et il dit, je veux que tu ailles chercher une femme pour mon fils. Puis il lui a dit les circonstances, quelle sorte de caractéristiques qu'il voulait que cette femme-là ait. Et il lui demande, je te prie ta main sur ma cuisse. Alors, on se demande toujours que, c'est ce que nous, on ne fait pas ça, c'est des coutumes orientales. Quand tu faisais mettre ta main pour jurer sous la cuisse de quelqu'un, c'était une coutume qui voulait tout simplement dire t'engager de façon solennelle, de façon sérieuse. Il faut comprendre que c'est des coutumes orientales. Et dans le verset 3 et 4, on voit qu'il est conscient que la mission qu'il lui demande de faire est importante parce qu'il le fait jurer. Donc, il prend le membre le plus influent, le plus capable de tous ses serviteurs, et il le fait jurer que tu vas aller me chercher la femme pour mon fils, mais cette femme-là, il faut qu'elle ait des caractéristiques bien particulières. Et là, regardez les mots qu'utilise le verset 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, tu jures au nom de Dieu. Si quand quelqu'un jure, des fois, on voit là, des fois quelqu'un qui va dans des procès, ils vont sortir les Écritures, la personne a mis sa main sur les Écritures, puis elle dit, je jure de dire toute la vérité, je dis, je le jure. Et le gars, il dit, je le jure. Puis là, il compte des mensonges. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte. Parce que tu es en train d'utiliser le nom de Dieu pour dire que tu vas dire la vérité et tu mens. C'est un péché d'une très, très grande gravité. Alors, il s'est dit, je te ferai jurer par l'Éternel. Et là, il qualifie l'Éternel, il dit, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre. Autrement dit, c'est le grand maître de toute l'existence, les cieux et de la terre. Si on rentrerait dans les détails, la grandeur de l'univers, là, on serait ébloui. On l'a fait un petit peu quand on a fait Genèse 1, la création. On a parlé du nombre d'étoiles, du nombre de planètes. C'est étourdissant. Et là, il dit, c'est ce Dieu-là, tu jures devant lui, le créateur du ciel et de la terre. Puis il lui dit, tu ne prendras point pour ma femme, mon fils, d'entre les filles des Cananéens, par lesquelles les Cananéens, c'était des païens, c'était des incroyants. Et lui, il dit, il n'est pas question que mon fils marie une incroyante. Il lui donne la mission, puis là, il le fait jurer par le Dieu. Et dans le verset 4, mais que tu iras dans mon pays, dans ma parenté, tu y prendras une femme pour Isaac. Il y a des leçons importantes pour nous là-dedans. Dans le sens que le mariage, c'est quelque chose de très, 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 très sérieux. Et dans le sens que quelqu'un qui est croyant ne devrait jamais se marier avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Parce que les problèmes, s'ils ne sont pas là, ils vont finir par arriver et ça ne sera pas long. Alors, les Écritures nous enseignent ça d'un couvert à l'autre. Et dans le Nouveau Testament, il y a plein de choses qui nous rappellent cela. Premièrement, l'importance du mariage. Deuxièmement, l'importance que quand tu es croyant, tu ne maries pas n'importe qui. Après ça, la mission est extrêmement importante pour Abraham. Alors, il ne veut pas qu'il prenne une fille du pays. Là, l'autre, il a dit, « Ouais, mais si elle ne veut pas venir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de retourner dans ton pays d'origine. » Il dit, « Je ne veux pas que tu retournes dans le pays d'origine. » Il avait confiance que Dieu conduirait ce voyage pour que ça réussisse. Dans le verset 5 et 6, ça dit, le serviteur lui répondit, « Peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? » Il sortait de Mésopotamie. Autrement dit, si la fille ne veut pas venir, là, je vais être obligé de remonter jusqu'en Mésopotamie pour aller chercher une femme. Et là, on voit qu'Abraham a confiance que Dieu va conduire. Et Abraham, là, lui dit, il lui défend de faire ça. Il dit, « Garde-toi bien d'y ramener mon fils. » Et dans le verset 7 à 9, on voit la confiance qu'un croyant, on appelle souvent Abraham le père des croyants. S'il est le père des croyants, c'est qu'il nous donne des exemples. Et il dit, et versets 7 et 8, « L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé, qui m'a juré, en disant, je donnerai à ta postérité ce pays, enverra lui-même son ange devant toi. » Voyez-vous la confiance que Dieu va conduire le voyage, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Puis dans le verset 8, il dit que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Quoi qu'il en soit, n'y ramène-moi point mon fils. Tout le monde dit, ça ne veut pas. Or, retourne pas dans mon pays d'origine pour essayer d'en trouver une là. Il avait confiance que Dieu conduirait. Alors, il utilise des mots importants quand il parle. Il parle de l'Éternel, le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux, ça veut dire le Dieu qui est souverain, le Dieu qui conduit la vie, les événements de la vie. Le Dieu de grâce aussi, le Dieu qui m'a fait sortir du pays. On sait que la Mésopotamie, à cette époque-là, c'était un pays de païens, c'était un pays où il y avait beaucoup de mal. Et Dieu lui avait dit à Abraham, sors de ce pays avec ta famille, ta parenté, et viens à l'endroit où la terre promise. Et Abraham avait suivi, donc il avait reçu la foi, il avait commencé déjà à obéir à Dieu. Et il dit le Dieu de vérité, parce qu'il dit, Dieu m'a parlé. Dieu a fait une alliance aussi. Déjà, la promesse que Dieu le conduirait dans le pays où lui voulait qu'il aille. Quand il lui dit aussi le Dieu enverra son ange devant toi, c'est vraiment le Dieu de la providence. Ceux qui ont assisté au sermon qu'on a fait dans notre série sur la providence le mercredi soir, la providence, ça, des fois c'est un grand mot qu'on ne s'arrête pas à penser ce qu'il veut dire tout simplement. La providence, ça veut dire pro, ça, vidéo, c'est comme voir avant. Dieu connaît nos vies à nous tous, qu'on soit sauvés ou non, de façon détaillée, du jour de notre naissance au jour de notre mort. Il connaît le jour de notre naissance, il a déterminé le jour de notre mort. La providence, c'est l'ensemble des circonstances que l'Éternel a choisi de nous faire vivre durant toute notre vie. Et plus particulièrement comme croyants. Quand on est des croyants, tout ce qui nous arrive, on en parlait un petit peu tantôt, c'est, ça contribue à notre plus grand bien. Alors, le verset 9 dit, « Alors, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et s'engagea par serment à faire ce qu'il lui avait dit. » Donc, une épouse désirée. Premier point, donc, autrement dit, Abraham veut s'assurer que la femme que son fils va marier, c'est une croyante et qui a les caractéristiques, et une croyante que Dieu lui-même a choisie et a mis sur la route. Oui, pas pareil. Hein? Des fois, on entend parler des gens qui ils veulent se marier, puis ils vont sur Internet, puis ils utilisent toutes sortes de moyens. Quand on est des croyants, on se devrait de faire confiance à Dieu pour mettre celui ou celle qui deviendra notre douce moitié, ou notre doux moitié, je trouve, sur notre route. Faire confiance à Dieu. On a tellement de misère avec ça, c'est que souvent, on va chercher à aider Dieu. Je vais aller dans une autre assemblée où il y a plus de monde, puis là, je vais rencontrer. Laisse faire, Dieu est capable de s'occuper des circonstances. Moi, j'ai déjà lu des livres, là. Une jeune fille aux États-Unis, une chrétienne, elle avait une grande foi. Et elle a toujours dit, toutes ses amies disaient, « Ben, va au camp chrétien, là, il va y avoir un camp chrétien à telle date, là. Va là, tu vas rencontrer d'autres chrétiens, tu vas te marier. » Elle a dit, « Non, je vais marier celui que Dieu va mettre sur ma route. Et lorsqu'il va le mettre sur ma route, je vais le savoir. » Confiance, confiance en Dieu. Plutôt que de chercher à régler ton problème ou ton désir par toi-même. Alors, dans le deuxième point, on va voir une épouse pour Isaac, qui lui était vraiment destiné. Donc, premièrement, est désiré, mais on va voir comment Dieu se sert de tous les événements pour montrer que c'est lui qui l'a choisi pour son fils Isaac. Alors, ça dit dans le verset 10, puis le serviteur, oui, il se prépare. Tu t'en vas pas dans un endroit comme ça pour aller chercher une fille. À cette époque-là, les Orientaux, eux autres, c'était souvent... Et quand tu voulais marier une fille, il fallait que tu emmènes de l'or, il fallait que tu emmènes... Tu sais, tu avais la dot, tu sais, eux, ça fonctionnait comme ça. Regarde, il part pas à vide, là. Il prend 10 chameaux d'entre les chameaux de son maître, il est parti avec toutes sortes de biens de son maître entre ses mains, il se leva, c'est en allant à Mésopotamie, la ville de Nakhor. Alors, il emmène non seulement les provisions, tout ce qu'il va avoir besoin durant tout son voyage, il emmène aussi des présents. Il emmène de l'or, qu'on a vu tantôt, qu'il va lui donner de l'or, des choses pour montrer que son maître, c'est pas... il est riche. En plus, il va lui fournir de la protection. Donc, tout ça, Dieu va permettre que durant tout son voyage, non seulement il y ait les provisions, mais il y a les présents, puis il y a la protection. Dans le verset 11... on voit, et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau. Et le soir, à l'heure où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Tellement beau, ça, ce passage-là. Parce que le Seigneur nous conduit par les circonstances et aussi par les lieux. Voyez-vous, ça dit, le Seigneur a conduit le serviteur près d'un puits et non pas près d'un parc ou d'un terrain de jeu. Pourquoi les puits? Parce qu'à l'époque, les gens avaient besoin de nourrir leur bétail et la fille qui allait faire nourrir les bétails, ça correspondait à ce que Dieu voulait pour la femme. Alors, ce n'est pas par hasard, c'est l'endroit où on peut espérer rencontrer ce que l'on cherche, une femme laborieuse. Mm-hmm. Ouais. Voyez-vous? Mm-hmm. Dieu contrôle les circonstances. Il s'en va près d'un puits, et là, il va faire sa prière. Et de versets 12 à 14, et il dit, voyez-vous, là, il fait une prière à Dieu. Éternel, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et sois favorable à mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Et le verset 14, que la jeune fille à qui je dirai, là, il parle à Dieu, penche, je te prie, ta cruche afin que je boive et qui répondra. Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et je connaîtrai par là que tu as été favorable à mon Seigneur. Vous, la prière, c'est que si tu réponds à ma prière et que la fille a fait ce que je te demande, je vais savoir que c'est toi, toi-même, Dieu lui-même, qui envoie cette fille-là pour son fils. Alors, la prière est faite avec vraiment de la révérence, du respect. Et elle est aussi une prière confiante. Et il remarquait un mot, des fois, qu'on remarque pas dans le texte, mais qui est là, qui est important. Elle est aussi précise. Elle dit, le serviteur demande l'exaucement aujourd'hui. Il lui fait une demande précise. Il dit, il faut que la fille me donne de l'eau, il faut qu'elle en donne à mes animaux. Puis en plus, il faut que ça soit aujourd'hui. Alors, il fait une demande très précise au Seigneur. Donc, la louange, l'intercession comprend aussi de la louange et la demande que la réponse soit divine, que ça soit manifeste, que tu saves comme instinctivement si Dieu accorde que la femme lui donne de l'eau et qu'elle s'occupe de donner de l'eau à ses chameaux. Là, il va comprendre que Dieu lui-même a choisi l'épouse pour son fils. Les versets 15 à 28. Donc, on voit là-dedans la grâce de Dieu. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, verset 15, « Et avant qu'il eût achevé de parler, parle au Seigneur, il n'avait même pas fini de parler, que déjà le Seigneur répondait. Et il dit, « Voici Rebecca, fille de Bethuel, fille de Mica, femme de Nachor, frère d'Abraham, sortait avec sa cruche sur l'épaule. Et la jeune fille était très belle. Elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut devant elle et dit, « Fais-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Et elle dit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle se hâta d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « J'en puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour en puiser, et en puisa pour tous ses chameaux. Donc, t'as une vaillante. Là. Il avait juste demandé de l'eau pour lui. Et verset 21, ça c'est un beau verset, parce qu'écoutez ce que ça dit. « Et cet homme la contemplait en silence. Il regardait comment Dieu était pour répondre à ce qu'il lui avait demandé. » Pour savoir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. Alors, c'est très intéressant. Et après ça, on a le nom Rebecca. Souvent, on prend pas... Si vous avez un dictionnaire biblique à la maison, ça vaut la peine d'aller voir les noms. Parce que les noms, c'est en hébreu, ça voulait dire quelque chose de précis. Ça veut dire Rebecca, beauté ensorcelante. Quand une femme est belle au point qu'elle t'ensorcelle... Oh, c'est parce que c'est beau, vrai. Alors, et il lui dit aussi qu'elle est vierge. Donc, ce n'est pas une femme qui avait couché d'un bord et de l'autre avant de se marier. Elle était vierge. Alors, et était une femme qui était vaillante. Et une femme aussi qui avait différentes caractéristiques qu'on voit par ce qu'elle dit. De la courtoisie. De l'hospitalité. Elle dit, oui, viens à la maison, on a de la place pour tes chameaux, on a de la place pour toi, tu peux coucher. Elle était humble aussi, elle était gentille, polie, respectueuse, généreuse et serviable. Alors, toutes ces qualités-là, c'était Dieu qui avait mis ça dans cette femme-là pour l'emmener pour son fils. Quand Dieu fait des cadeaux, c'est des beaux cadeaux. Moi, j'aime beaucoup le verset 21, cet homme la contemplait en silence. Il regardait. qu'est-ce qui se passait pour voir si c'était la réponse divine. Et comme de raison. Et contempler, ça veut dire, quand on contemple, là, c'est que on regarde quelque chose qui nous émerveille. Hein? Dieu est en train de répondre. Ça, ça devait être, comme on dit en québécois, fascinant pour lui. Là. Donc, c'est une grâce aussi qui est signée, qu'on pourrait dire, on voit la signature de Dieu. Dès que les chameaux eurent achevé de boire, cet homme prit un anneau d'or. Donc, il n'a pas pris la peine de vérifier, tu veux-tu venir, tu veux-tu pas venir. Il savait que c'était à elle que Dieu voulait, et il lui donne un anneau d'or pesant un demi-sicle, deux bracelets pour ses mains pesant 10 sicles d'or. Il dit, « De qui es-tu la fille? » Là, il veut savoir si ça correspond que son maître lui a demandé, « Faut pas savoir la fille, une fille de mon pays, de ma parenté. » Alors, elle lui répond, « Je suis fille de Bethuel, le fils de Milca, qu'elle a enfanté à Nakhor. » Puis elle dit, « Il y a chez nous beaucoup de paille et de fourrage et aussi de la place pour y passer la nuit. » Donc, on voit son hospitalité. Elle ne connaissait même pas la main de Dieu sur les esprits qui travaillent sur les esprits. Alors, ce qui est intéressant, le verset 28 aussi, c'est la réponse du serviteur. Verset 26. « Et cet homme, le serviteur, s'inclina et se prosterna devant Dieu, devant l'Éternel. » Se prosterner, c'est de l'adoration. Tu te rends compte de ce qui se passe devant tes propres yeux et tu vois que c'est la main de Dieu qui choisit l'épouse d'Isaac qui était pour s'inscrire dans la lignée pour l'arrivée du Messie éventuellement plusieurs centaines d'années après. Dans le verset 27, on a vraiment là l'expression, non seulement parce que adorer, ça veut dire se prosterner. Tu tombes sur ta face, tu reconnais la main de Dieu. Et là, il dit, et là, après ça, il exprime avec sa voix, et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, mon maître, qui n'a pas cessé d'être miséricordieux et fidèle envers mon Seigneur. Quand j'étais en chemin, l'Éternel m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. » Donc, la louange inclut la bénédiction, le soulignement des perfections de la personne de Dieu, la miséricorde, la fidélité, la direction et les perfections de son œuvre. Il lui parle de son alliance, il lui parle de sa providence, il lui parle de sa souveraineté. Donc, tout de suite après qu'il a vu la main de Dieu réalisée, ça l'amène à l'adoration et ça l'amène à exprimer toutes sortes de choses par rapport à Dieu. Des leçons pour nous là-dedans aussi. Quand on voit la main de Dieu, c'est sûr que si quelqu'un, disons, une femme croyante ou un homme croyant qui demande à Dieu, « Moi, je ne veux pas prendre les devants pour essayer de la courir par moi-même, là, ma femme. Là. Seigneur, je te fais confiance. Quand ça va être le moment, le lieu, je vais comprendre que c'est toi qui me l'envoies et ça va être clair dans mon esprit. » Pensez-vous que la personne risque d'avoir un meilleur mari ou une meilleure épouse si on attend et on fait confiance à Dieu? Bien sûr. Et voyez-vous, le verset 28, ça dit, « Et la jeune fille courut et rapporta ces choses à la maison de sa mère. » Alors, elle savait qu'elle était pour être la future épouse de quelqu'un, mais sans le connaître, elle décide qu'elle y va. Parce que quand on lit le reste du chapitre, c'est spécial la foi, ce que ça fait faire. Quand tu sais que ça vient de Dieu, tu sais que ça ne peut pas être mauvais pour toi. Alors, « Et la jeune fille courut et rapporta ces choses à la maison de sa mère. » Et on verra la semaine prochaine. Alors, la merveilleuse histoire continue de se dérouler. Trois applications. Les applications, c'est qu'on lit un texte, on entend un texte, il faut que ça change quelque chose dans nos vies. La Bible, c'est pas quelque chose qu'on fait juste écouter. C'est quelque chose qu'on obéit. On applique des principes dans notre vie de tous les jours. Alors, le premier principe que je dirais, c'est adorons le Seigneur. Que le Seigneur soit loué et adoré pour les glorieuses manifestations de sa personne et de son œuvre. Parce que sa personne, là-dedans, on voit que Dieu, par son alliance, a fait une promesse à Abraham, et on est en train de voir un des premiers maillons de l'exécution, de l'accomplissement qui va se faire dans le temps. On a aussi la personne, la sainteté de Dieu, dans le choix de l'épouse d'Isaac. Dieu, non seulement, il ne choisit pas, il ne fait pas juste qu'elle est belle, elle est belle, mais incroyante en plus. Qu'est-ce que tu veux que plus l'Isaac quand il va la rencontrer? si son nom, Rebecca, qui veut dire éblouissante, et je pense qu'il n'y aura pas de misère à l'apprendre. Et il voit la miséricorde de Dieu dans la direction, et il voit aussi l'accomplissement de Dieu dans sa fidélité envers sa promesse. Et il voit aussi l'œuvre de Dieu, le plan parfait et sage de Dieu dans le déroulement de la providence pour l'amener, pour le futur Messie qui va arriver. Donc, ça s'est fait par Abraham, Isaac, après ça, on va passer dans les autres chapitres, ça va être Jacob, et etc., jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Deuxième chose. Donc, première chose, adorons le Seigneur. Deuxième chose, apprenons du Seigneur. Le Seigneur, c'est le plus merveilleux pédagogue. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne. Le Seigneur enseigne énormément de choses dans ce chapitre-là. C'est parce que des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de regarder quelles sont les choses qu'il a enseignées. Il nous apprend, premièrement, l'importance du choix judicieux de son partenaire dans le mariage. N'est-ce pas qu'on voit ça dans le texte? Deuxièmement, il nous apprend l'importance de consulter en cette matière et de savoir attendre sa réponse. Le serviteur, il a consulté Dieu, mais il a attendu. Troisième chose, l'importance de la prière pour nos choix dans nos vies. On fait des choix continuellement dans nos vies, n'est-ce pas? On fait des choix, toutes sortes de choses, le choix de notre carrière, le choix de notre épouse, plein de choses. Souvent, on fait des choix, mais on n'a pas consulté le Seigneur. C'est une erreur. On se devrait de toujours consulter le Seigneur dans toutes les décisions qu'on prend dans nos vies. Quatrième chose, l'importance de demander conseil et d'en tenir compte. Moi, j'ai remarqué ça dans la vie. Des fois, il y a des chrétiens qui viennent te voir. Qu'est-ce que tu penses de telle affaire que je vais vivre? Qu'est-ce que tu penses? Puis là, on leur dit, je pense que tu ne devrais pas faire ça. Pour mes nouvelles conseils, les gens ont la tête dure des fois, comme on dit. Ils ont la tête dure, mais quand tu as la tête dure, tu payes pour. Quand tu n'écoutes pas les conseils qu'on te dit, les conseils ne sont pas là pour te rendre malheureux, ils sont là pour t'empêcher que tu fasses des bêtises. Et la cinquième chose, l'importance de se fier à la direction de Dieu et à son choix, pas le tien, parce que le tien puis celui de Dieu peut être bien différent. Et un autre, l'importance de ne pas s'allier avec un infidèle. Les Écritures nous disent que, comme croyants, on ne devrait jamais s'allier avec un infidèle, soit pour se partir en affaires, ou soit pour se marier. Ça ne fait pas des recettes gagnantes. L'autre, la grâce reçue, dépasse souvent nos attentes. Quand Abraham a vu la beauté puis le caractère de la fille, ça a fort probablement même dépassé ses attentes. Il voulait avoir une femme, mais une femme croyante, en plus elle était belle, puis elle était vierge, puis elle était croyante. Okay. La certitude aussi que le Seigneur saura vaincre toutes les difficultés. Il y avait des difficultés là-dedans, le serviteur s'en rend compte. « Ouais, mais ça ne veut pas venir, que je fais quoi, moi? » Le Seigneur va te donner, il va te montrer le chemin. Et on a aussi une autre leçon. C'est que si on en prenait toutes, on les méditerait. Il y en a beaucoup de leçons dans ce texte-là. La solennité des serments donnés et le devoir de les respecter. Il avait mis sa main sous la cuisse d'Abraham. Mais s'il arrêtait là, puis si la fille aurait dit non, je ne vais pas, ben il n'aurait pas monté au pays pour aller en Chine en chercher une dans son pays d'origine. Parce qu'il avait fait de serment. Alors, il y a la leçon de faire attention quand on fait des serments. On ne devrait pas en faire souvent, des serments. Parce que quand on en fait, on s'engage devant Dieu. Et la dernière, c'est le grand soin à donner aux grandes décisions de notre vie. On en a continuellement placé devant nous autres. Je vends-tu, je vends-tu pas? Je me marie-tu, je me marie-tu pas? Plein de choses qui nous arrivent. Et on se doit de jamais oublier de consulter le Seigneur dans toutes ces choses-là. Alors, que l'Éternel soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.
Amen.